manifestation utilitaire. En fait, Anna, elle était à une manifestation utilitaire. Donc, je trouve que c'est un petit peu l'idée de dire qu'il y avait élargi ce groupe anti-nucléaire. Il a signé cette protestation parce qu'Anna était à la manif anti-nucléaire de Gézion, je crois. Mm-hmm. Et je trouve qu'il ne faut pas en faire plus parce que c'était quand même bien ciblé. Il me semble que le mouvement était bien ciblé, même si de temps en temps il y avait une signature tout à fait.
Ah, je ne voudrais pas dire qu'il n'est pas ciblé, ça c'est absolument pas du tout.
Non, mais c'était la phrase que vous avez utilisée pour commenter le fait que c'était le mouvement qui était en guerre.
Oui.
Autre remarque, question, oui.
Moi j'ai une autre question ponctuelle. Cette présentation par K, entre guillemets, est-ce que c'était un choix parce que pour présenter une information ça permet de poser le problème ou bien est-ce que c'est une caractéristique de la mobilisation de se regrouper autour d'une figure ou d'un cas pour utiliser un terme médical?
Alors, disons qu'un de mes questionnements, au sein même de la recherche, d'un point de vue un petit peu plus méta, en même temps, ce qui figure dans la littérature, c'est qu'en généralement, oui, les événements, mais il faut que les situations deviennent événements. Les situations ne sont pas données d'emblée. Donc, il faut que des gens se mobilisent. Puis, il faut aussi, justement, réussir à le faire sortir d'un certain cadre, donc dans l'espace public, par exemple, pour qu'il y ait mobilisation, que la mobilisation, surtout, gagne une ampleur. Et bien sûr que c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre comment à certains moments ça fonctionne, à comment à d'autres moments mais ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas donné d'emblée que des collectifs importants se mobilisent autour de la question psychiatrique. Et bien sûr que oui, des événements spécifiques, par contre, à ce moment-là, on dit aussi que ça offre des opportunités, en guillemets, justement, de ouvrir le débat. Disons que les personnes qui étaient engagées là-dedans, pour, si je généralise, bien sûr que c'est très différent les unes et les autres, les intérêts, etc., mais disons que la question de la psychiatrie, de ses modes d'intervention, de ses modes de fonctionnement, elle était présente depuis assez longtemps. Par contre, comment réussir à la faire sortir d'un certain milieu plus confiné et de la porter dans l'espace public, ça, c'est par exemple à l'occasion d'événements que ça peut se passer.
Mais un événement personnalisé, enfin, il y a un processus de personnalisation, en fait, c'est ça.
Oui.
Je peux faire une remarque par rapport à cette question qui me paraît très intéressante. Parce que, est-ce qu'il n'y a pas un artefact avec le fait que, dans les archives contestataires, forcément que ce qui apparaît, c'est des situations par cas. Alors que, dans le mouvement de façon globale, il y a des tas de moments entre les cas où il y a un travail qui se fait, une réflexion qui se fait, que ce soit à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique ou que ce soit à l'extérieur, que ce soit du vrai militantisme ou que ce soit des réflexions, choses qui n'apparaissent pas dans les documents. C'est-à-dire que la seule façon de savoir quelque chose, ce serait de réunir des témoignages avant que les gens soient morts.
Il y a les deux choses. Je pense en même temps que dans les archives, et là c'est peut-être un biais de ma présentation quelque part parce qu'il y avait des choix à faire aussi, mais dans les archives il y a aussi de la correspondance, des PV, des choses qui sont beaucoup plus en lien avec le quotidien, des notes de réunion. Mais en même temps, c'est vrai que c'est pas le quotidien de la clinique et celle-ci, oui, on doit en accéder autrement.
Moi, je pense que la DUPSI a été une tentative d'essayer de résoudre cette contradiction de cas et puis la réflexion collective sur la psychiatrie. À la fois pour essayer de faire du cas quelque chose de plus collectif et de pouvoir justement dépasser cette problématique du cas, et puis en même temps de donner au cas sujet, au sujet, la possibilité d'avoir un lieu où, je dirais, étaler. Pas seulement être complètement dans l'événementiel. L'événementiel, oui, il a sa vertu par le fait qu'il permet de rendre public un discours politique, critique. Mais bon, il a en même temps cet aspect éphémère. Donc je crois que l'adoption est une tentative pour essayer d'étaler quelque chose, de faire histoire, en fait, plus au-delà de l'événement.
Vous avez regardé l'archive que vous avez d'un certain nombre d'organisations dont la plupart, à ma connaissance, n'existent plus. Et vous avez également parlé d'événements qui datent de plus de 30 ans. Est-ce que vous avez des archives plus récentes?
Alors, c'est pas si moi j'en ai, mais il y a les archives contestataires. C'est bien en ayant les archives contestataires. Il y a des archives plus récentes, mais qui sont d'une autre nature, sont d'autres types de documents. À ma connaissance, pour l'instant, de ce que j'ai pu en voir, il n'y a pas, par exemple, des archives d'autres, admettons, d'associations usagées ou d'associations professionnelles bien plus récentes. Voilà. Alors après, on a, par contre, des archives de militants qui continuent leur parcours de militants et puis qui ont décidé de donner leur fonds aux archives. Oui. Mais
qui vous a donné celles que vous avez? Ce sont ces organismes qui vous ont donné?
Donc c'est aux archives contestataires qui organisent la soirée ici. Peut-être qu'eux pourront mieux répondre. Mais non, je m'y suis simplement rendue. C'est public. On a téléphoné, envoyé un mail et puis on vous reçoit avec très grande amabilité. On vous donne un rendez-vous et puis ensuite vous pouvez aller et on vous aide aussi à consulter les fonds. Donc là, c'est pas vraiment, c'est un lieu tout à fait public où tout le monde peut s'y rendre.
Peut-être juste pour préciser, c'est donc soit des archives de collectifs qui donnent en tant que collectif le fonds d'archives qui correspond, soit des particuliers, des individus qui décident de donner une partie ou toutes leurs archives, en l'occurrence militantes. Donc en fait, ça dépend, et forcément, dans les archives des individus, il y a plusieurs sujets qui sont abordés, quoi. C'est pas monothématique, disons. Moins que si c'était un collectif qui le donnait en tant que collectif.
Je propose qu'on arrête. Une dernière question, alors, peut-être.
Ah, écoutez, c'est l'adultie. J'ai fait partie de l'adultie. Ça a duré peut-être 4 ans. Mm-hmm. Parce qu'ils se chicanaient entre eux, il n'y avait pas de dirigisme. Adam Sokolowski-Borobé aurait voulu prendre la direction. Mais non, alors la place a échoué. Alors moi j'ai été internée à Bel Air. C'était le 31 janvier 1975. Après avoir fait 3 semaines de prison pour pas grand chose, quelques états d'union, enfin c'était un procès qu'on a, parce que j'allais dénoncer une institution. Là j'ai écrit un livre, Torture psychiatrique à Genève, qui a fait du bruit à l'époque. Maintenant il est épuisé. J'en ai fait une réédition il y a quelques années. Elle est là, j'en ai plus que quelques exemplaires. Et alors, je peux dire quelque chose. Attendez. En 1977, deux médecins osèrent protester contre les abus et sévices dont ils furent témoins. Ils furent remerciés. C'est le docteur Bartol Berensdahl. Mmh. On a entendu parler, qui a écrit le dictionnaire critique de la psychiatrie. Hein. Mmh. Ensuite, en revanche, à cette époque, il restait en fonction un infirmier déviant, j'en parle dans mon livre, qui s'appelle Brennan Schultz, ça peut bien le dire, hein. Qui, avec un fusil militaire, tira à plusieurs reprises sur des enfants coupables de les déranger alors qu'ils pêchaient dans la rondeau. Il s'est tué, hein. Il a resté en fonction. En début de l'été 1980, un scandale éclate à la suite du décès d'un jeune homme de 27 ans soumis de force par injection massive à une cure de sommeil. Un rapport de la commission d'enquête est rendu public en 1981. Vous pouvez regarder dans la tribune de Genève. C'est de la dynamite.
Écoutez, je vous propose, madame, que, parce que le temps avance. Je vous propose qu'on passe la suite de la discussion, qui est effectivement, on est cette fois dans les témoignages des acteurs. Donc, peut-être qu'on va écouter M. Himmelberger nous parler en tant qu'ayant vécu cette époque, et puis on pourra revenir sur ce que vous dites plus tard dans la discussion.
Oui, il faudrait revenir parce que j'ai écrit un livre, puisque j'ai subi là-bas, hein, voilà. C'est incroyable.
Tout à fait.
Vous savez, ces gens, ces psychiatres, ils ne sont pas normaux.
Voilà. Et c'est à cause qu'on avance dans la soirée et qu'on revient sur cette question-là. C'est un bon sujet parce que c'est une discussion générale. Alors, je vous remercie encore une fois.